Chers sœurs et frères, mes salutations fraternelles à vous tous. C'est toujours un honneur et un plaisir de pouvoir vous parler, même par l'intermédiaire de vidéos, mais c'est une joie aussi. Je vous envoie mes chaleureuses salutations avec tout mon amour fraternel. Chers sœurs et frères, nous célébrons maintenant la saison de la Pâque et des pains sans levain. Et en pensant quel sujet devrait-on parler, il y en a tellement de sujets qui sont liés, qui s'harmonisent dans la parole de Dieu. J'aimerais aujourd'hui, chers sœurs et frères, vous parler des vêtements sacrés du suprême sacrificateur et de ses enfants. Pourquoi parler de ces sujets pendant cette époque de l'année? Comme nous allons voir, c'est Aaron et ses fils qui devaient être investis pour le sacerdoce et l'un des signes principaux de cet investissement, c'était les vêtements sacrés que Dieu a ordonnés pour eux. Nous venons de célébrer la Pâque. Chers sœurs et frères, on a mangé la chair et on a bu le sang du Christ. Ce sont des paroles très fortes qu'il a utilisées, un langage profond, puissant, auquel on ne peut pas rester indifférent. Il voulait nous transmettre un message absolument essentiel. Il faut devenir un avec lui, dans l'esprit, mais il emploie un langage physique puissant pour que nous ne restions pas indifférents au message profond de ce qu'il est venu faire. Il est venu nous sortir du péché, chers sœurs et frères, nous sauver, nous racheter pour que nous puissions être un avec lui. Mais c'est un procès et cette semaine de 7 jours de pain sans levain représente ce processus de perfectionnement, comme c'est écrit, vous pouvez le voir, si vous pouvez vous reporter vous à l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4, nous allons voir quelle est notre mission quotidienne, une fois qu'on est entré dans un pacte avec notre Dieu, avec Jésus-Christ, qui sera l'époux de cette Église, et avec son Père qu'il a envoyé pour aboutir, pour pouvoir réaliser son plan merveilleux d'avoir des enfants, d'avoir une famille, que nous soyons tous un avec le Père et avec le Fils. Lisons par exemple ici, chers sœurs et frères, au chapitre 4 des Éphésiens. Vous le rapportez là-bas, rapportez là-bas. Nous allons lire l'une des significations de cette semaine, de cette fête. Nous pouvons lire au chapitre 4, verset 11 des Éphésiens. Nous pouvons commencer là-bas, chers sœurs et frères. Au chapitre 4, verset 11, nous lisons « Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes. » Les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Ce qu'on est en train de faire maintenant, Dieu utilise des instruments même, si on n'est pas digne de cet grand honneur, pour un but merveilleux avec son Église, avec ses enfants, que le Père a appelé pour être l'épouse de son Fils, et que nous fêtons maintenant. C'est le moment où il a racheté avec son sang, pas avec de l'or, pas avec de l'argent. Il a donné sa vie pour nous racheter en montrant la plus grande démonstration d'amour qui peut exister, donner sa propre vie. Et voilà ce qu'il veut que nous devenions pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ jusqu'à ce que nous soyons tous. Voilà, ça c'est le message. Nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils des dieux, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, numéro 7, numéro de perfection, la semaine des pains sans levain, perfection, non pas seulement se débarrasser du péché, mais être rempli de la présence du Christ. Il ne suffit pas de faire le vide, il faut combler ce vide. C'est pourquoi on enlève le levain, mais on mange du pain sans levain. Il ne suffit pas simplement d'enlever le levain, il faut remplir notre être avec le pain sans levain, qui est le Christ lui-même. Voilà le message merveilleux de cette semaine. Le Fils des dieux est un homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Donc, il faut acquérir cette maturité, ce discernement qui nous donne la présence des dieux et du Christ en nos cœurs, qui nous donne la sagesse. Voyons par exemple comment dans l'Épître aux Hébreux, nous voyons comment nous sommes les frères, mais d'une certaine manière les enfants aussi. Par exemple, au chapitre 2 des Hébreux, lisons au chapitre 2, et verset 11 de l'Épître aux Hébreux, comme introduction au sujet dont je veux vous parler aujourd'hui. Chapitre 2, verset 11, chers sœurs et frères, lisons ce que Dieu nous donne ici en sa parole vivante, comme c'est écrit dans cette même Épître. Chapitre 2, verset 11, nous voyons, il dit: car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Voilà, on est tous les enfants du Père, même le Christ. On est ses frères. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'on dit: j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée, et encore, je me confierai en toi, et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Donc, pourquoi ces paroles? Nous allons voir que l'investissement d'Aaron et de ses fils comme une figure physique d'un sacerdoce spirituel est consigné pour nous dans les Écritures, pour que nous apprenions des leçons profondes que Dieu nous montre dans un langage physique, mais qui a une application spirituelle merveilleuse pour nous tous. Regardons, avant d'aller dans le livre de la loi, regardons pour un moment, chers sœurs et frères, ce que le Christ a dit au sujet de la loi des dieux dans le chapitre, reportez-vous au livre de Matthieu, s'il vous plaît, chers sœurs et frères, Matthieu, chapitre 5 et verset 17. Nous allons voir, nous allons démontrer une partie de ces paroles merveilleuses du Christ. Qu'est-ce qu'il nous enseigne? C'était pendant la loi de l'Ancien Testament qu'on appelle, qui n'est pas ancien, il n'est pas un testament. Ce sont les Écritures hébreux qui n'ont pas été abolies, qui ont un accomplissement. C'est pourquoi nous gardons cette semaine. Et même Paul, il a commandé aux Corinthiens, dont la plupart de la congrégation étaient des gentils, il les a commandé de célébrer la fête de la Pâque et des pains sans levain, au chapitre 5 de l'Épître aux Corinthiens. Donc il y a un accomplissement dans la Nouvelle Alliance ou dans le Nouveau Pacte de ce qui est arrivé à l'époque de l'Exode, chers sœurs et frères. Je veux quand même lire cette écriture pour confirmer encore la parole de Dieu et pour que vous ayez un fondement sûr de tout ce qu'on vous dit, chers sœurs et frères, et fondé absolument sur la parole des dieux. Regardons la première épître aux Corinthiens au chapitre 5 et verset 8. Chapitre 5 et verset 8. Célébrons donc la fête. Voilà l'apôtre Paul qui était à Éphèse et qui écrit aux Corinthiens. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Voilà, ces paroles ne font que démontrer d'une façon incontestable, chers sœurs et frères, les paroles que le Christ a prononcées là où je vous avais dit de vous reporter au chapitre 5 de Matthieu et verset 17. Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi et les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Et nous allons voir, c'est pour ajouter une dimension beaucoup plus profonde à la loi. Tout le contraire d'abolir, c'est de donner un accomplissement dont la loi n'était que la figure physique et que Dieu par l'Esprit Saint et par les Écritures du Nouveau Pacte nous révèle cette dimension cachée. Par exemple, dont vient de parler l'apôtre Paul, je viens de vous les lire. Qu'est-ce que ça voulait dire? Pas simplement qu'on était sorti en hâte de l'Égypte physique, mais qu'il faut sortir en hâte de l'Égypte spirituelle du péché et d'être rempli de la présence des dieux au fur et à mesure qu'on assimile la parole des dieux et le caractère du Christ. Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de l'être jusqu'à ce que tout soit arrivé. Voilà. Donc on va étudier maintenant, je vous prie de vous reporter, chers sœurs et frères, au chapitre 28 du livre de l'Exode, le même livre où on a fêté pour la première fois cette fête de pain sans levain, mais je vous invite à vous reporter là-bas et nous allons tâcher d'apprendre de leçons profondes que l'Éternel nous transmet parce qu'il n'est pas venu pour abolir et toutes les paroles qui ont été consignées et conservées, réservées pour nous, ont une signification. Lisons donc ensemble, si vous voulez, s'il vous plaît, reportez-vous au chapitre de l'Exode, au chapitre 28, et nous commençons à lire, et nous allons voir les parallèles que Dieu veut que nous apprenions quand il s'agit d'avoir des vêtements sacrés qui ne font que la manifestation extérieure du caractère intérieur que Dieu veut que nous ayons. Donc, lisons ensemble en nous fondant sur les paroles du Christ. Il n'est pas venu pour abolir. Et ça, c'est écrit dans la loi. Et il a dit, toutes paroles, elles sont toutes là pour une raison. Donc, nous allons essayer de comprendre aujourd'hui. Fais approcher de toi Aaron, ton frère et ses fils. Et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Allez, pourquoi on est nous appelés comme prémices des dieux, comme les premiers fruits? Vous le savez bien, chers sœurs et frères, nous allons voir comment ces paroles ont un accomplissement dans le nouveau pacte, dans la révélation de la façon dont ces paroles s'accomplissent. On peut voir plusieurs exemples. Nous allons voir un qui est très connu pour vous, chapitre 5 de l'Apocalypse, verset 10. Apocalypse, chapitre 5, verset 10, nous allons voir l'accomplissement spirituel de ces paroles. Et nous, on a été appelés hors du monde, chers sœurs et frères, pour accomplir ce rôle du sacerdoce, le rôle de sacrificateur devant Dieu. Et là, regardons au chapitre 5, verset 10 de l'Apocalypse, « Tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. » Donc, c'est des sacrificateurs, non pas d'après l'ordre d'Aaron, qui était l'ordre physique, d'après la descendance physique d'Aaron, mais c'est le sacerdoce d'après l'ordre de Melchisédek, de Jésus-Christ, non pas d'après la descendance physique, mais d'après l'engendrement spirituel du Père céleste, qui nous rend des prêtres et des sacrificateurs en sa présence, chers sœurs et frères. Voyons par exemple aussi, donc il y a tellement d'accomplissements dans ces paroles qu'il faut toujours regarder et demander à Dieu le discernement qu'on faisait le roi David. Ouvre mes yeux pour que je voie les merveilles qui sont dans ta loi. Regardons encore par exemple le livre des Hébreux pour que vous voyez qu'on s'effondre directement sur la parole de Dieu. Par exemple, le Christ, il a été, d'après ce que nous étant enseigné dans l'épître aux Hébreux, nous allons voir, il y a un sacerdoce spirituel dont on fait mention au lieu du sacerdoce physique dont Aaron était la figure ou le type, celui qui représentait l'accomplissement final du sacerdoce du Christ. Regardons pour un moment, pour confirmer tout ce que j'essaie de vous transmettre aujourd'hui, au chapitre 5 des Hébreux, encore verset 10, chapitre 5 et verset 10 de l'Épître aux Hébreux. 5, verset 10, regardons, il dit, « Dieu l'ayant déclaré, donc il parle ici du Christ, au verset 9, « Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, voilà, qui ont le pacte dans leur cœur et dans leur esprit, l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant déclaré souverain, sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, ou Melchisédek, je ne sais pas comment vous le prononcez, chers sœurs et frères, mais voilà. Donc, c'est un sacerdoce spirituel qui est l'accomplissement de la figure qui représentait le sacerdoce physique d'Aaron. Regardons encore une autre écriture pour confirmer ça au chapitre 6 de la même épître aux Hébreux et verset 20. Chapitre 6 et verset 20, regardons, il dit, au verset 19, chapitre 6, verset 19, « Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. » Elle pénètre au-delà du voile. Voilà, le sacerdoce spirituel peut pénétrer au troisième ciel dans la présence du Père, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Et voilà, donc, je vous donne comme introduction, toutes ces écritures pour démontrer qu'il y a un accomplissement spirituel dans les paroles que nous allons continuer à lire au chapitre 28 de l'Exode. Revenons donc au livre de l'Exode, au chapitre 28, chers sœurs et frères. Donc, on continue ici à lire. C'est écrit, « Fais approcher de toi Aaron, ton frère. » Je lis le verset 1, chapitre 28, de l'Exode. Et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar. On vient de lire dans l'Épître aux Hébreux aussi que le Christ dit, il n'a pas honte de nous appeler ses frères, mais il dit aussi, voici moi et les enfants que Dieu m'a accordés ou que Dieu m'a donnés. Donc, voyons ici Aaron et ses enfants, mais après la mort d'Aaron, c'était l'aîné avec ses frères. Le Christ est notre frère aîné et nous sommes ses frères dans le même sacerdoce, comme nous venons de le lire au chapitre de l'Apocalypse. Continuons. Verset 2. « Tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. » Donc, nous devons, donc, sœurs et frères, par notre conduite, par notre façon d'agir jour après jour, d'avoir ses vêtements, ses habitudes saintes qui reflètent la dignité que le Père nous a donnée avec toute humilité, parce qu'elle vient de lui. Nous ne la produisons pas. C'est lui qui nous a appelés, c'est lui qui nous a sanctifiés, c'est lui qui nous a sanctifiés avec son esprit et nous donne cette dignité que nous ne méritons pas, mais qui doit nous distinguer comme la lumière du monde. Tu feras d'Aaron, ton frère, des vêtements sacrés. Chers frères, nous avons une obligation énorme devant le monde, devant nos familles, devant Dieu, de porter ces vêtements sacrés. Nous allons les voir. C'est les actions justes des saints. Il y a un accomplissement pour chaque chose. Et nous allons voir ces sept parties de tout l'ensemble de ces vêtements que Dieu veut que nous portions comme notre frère aîné les porte. Tu feras Aaron ton frère des vêtements sacrés pour marquer sa dignité. Et le Christ certainement a cette dignité merveilleuse. Il a été exalté par-dessus tout après avoir été humilié comme personne ne l'a été. Pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Tu parleras de tous ceux qui sont habiles et que j'ai donné un esprit plein d'intelligence et ils feront les vêtements d'Aaron afin qu'ils soient consacrés et qu'ils exercent mon sacerdoce. Voici les vêtements qu'ils feront. Un pectoral, numéro 1. Un éphod, numéro 2. Une robe, numéro 3, une tunique brodée, numéro 4, une tiare, numéro 5, et une ceinture, numéro 6. Mais souvenez-vous qu'il y a encore les caleçons qu'on doit ajouter pour que la nudité du sacerdoce, du prêtre ou du sacrificateur, c'est-à-dire des péchés cachés, ne soit pas présent quand il va se présenter devant son Dieu. Donc il y en a 7, nous allons les voir. Au fur et à mesure que nous lisons ici les instructions des dieux et l'application pour nous autres, chers sœurs et frères. Ils feront des vêtements sacrés à Aaron, ton frère, et à ses fils. Et nous voilà, nous sommes partis de ce sacerdoce au niveau spirituel, ce que nous essayons de comprendre maintenant, parce qu'il est révélé ici, dans la loi des dieux, que le Christ est venu accomplir. Afin qu'ils exercent mon sacerdoce. Donc nous avons un sacerdoce quotidien à exercer. Je vous ai déjà parlé à ce sujet et peut-être on va répéter encore des leçons profondes qui décrivent nos devoirs quotidiens qu'on ne peut pas négliger, chers sœurs et frères. Notre vie spirituelle et notre vie éternelle dépend de notre diligence spirituelle à accomplir nos devoirs de sacrificateur jour après jour. Le sacrifice du matin et le sacrifice du soir. Allumer la lampe avec la parole des dieux, jour, toute la nuit, il doit brûler cette lampe. Et puis on va y revenir. Je ne vais pas m'attarder aujourd'hui puisque je vais continuer avec ces sujets. Des vêtements sacrés d'Aaron, ton frère et ses fils, afin qu'ils exercent mon sacerdoce. Vous savez qu'il a été habillé juste avant la Pâque, la première Pâque, disons la deuxième Pâque, après la première qui a eu lieu en Égypte. C'est une année après que le sanctuaire a été érigé dans le désert et que Aaron a été et ses enfants ont été revêtus comme ça, c'est avec les habits ou les vêtements sacrés. Ils emploieront de l'or, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et de fin lin. Ce sont des choses précieuses aux yeux des dieux et aux yeux des hommes. Ils feront l'éphod d'or. Voilà. L'éphod. Qu'est-ce que l'éphod? Nous allons voir quelques applications pour nous autres aujourd'hui. De fil bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin retors. Il sera artistement travaillé. On y fera des épaulettes qui les joindront par ses deux extrémités et c'est ainsi qu'il sera joint. Donc l'éphod couvrait cette partie du corps, la poitrine, Et puis, il fallait faire des épaulettes pour se joindre des deux côtés, de l'arrière et du devant. Qu'est-ce que l'éphod représente, chers sœurs et frères? L'éphod couvrait cette partie du corps où le cœur se trouve. Dans la nouvelle alliance, le cœur est, si vous voulez, des dépositaires. C'est là où se trouve écrite la loi des dieux au tréfonds de notre être. Et l'éphod aussi, c'est un parallèle de cette armure que l'apôtre Paul décrit en Éphésiens chapitre 6, si vous voulez reporter là-bas, pour voir des parallèles et des accomplissements dans la nouvelle alliance. Voilà par exemple au chapitre 6 des Éphésiens, verset 14. « Tenez donc ferme, ayez à vos reins, nous allons voir ça dans un moment, la vérité pour ceinture, nous allons voir que l'éphod a une ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. » L'éphod était au même endroit où se trouvait la cuirasse de la justice. La justice veut dire la sainteté, la rectitude, la droiture, l'obéissance au commandement de Dieu. La définition des saints dans la Nouvelle Alliance, vous la trouvez dans le chapitre 14 et verset 12 de l'Apocalypse. Chapitre 14, verset 12, vous lisez, chers sœurs et frères, qu'est-ce qu'un saint? Donc, l'éphod représente cette sainteté, une obéissance au commandement écrit au profond de notre être, comme là où était l'arche de l'Alliance, l'arche du pacte. Au chapitre 14, verset 12 de l'Apocalypse, vous le lisez, c'est ici la persévérance des saints qui garde les commandements des dieux et la foi de Jésus. Donc, l'éphod représente la sainteté, cette obéissance qui rend saint la personne pour qu'elle puisse s'approcher des dieux. C'est pourquoi quand David, il a transporté l'arche, il l'a amenée à Jérusalem, il dansait de toutes ses forces devant l'arche de Dieu, mais il avait un éphod. Ça voulait dire que pour être devant la présence des dieux, il faut être sanctifié, il faut être en obéissance. C'est pourquoi nous, par le sang du Christ, il nous couvre, on peut se présenter devant la présence des dieux, on est sanctifié par son sang qui efface nos péchés. Voilà la signification de l'éphod. C'est pourquoi ça couvre cette partie du corps où le cœur se trouve. Le petit Samuel, quand il est devenu, quand il ministrait devant Dieu et que sa mère Anna l'a consacré, elle a fait un éphod pour son petit-fils pour qu'il puisse se présenter devant la présence des dieux. Donc voilà la signification de l'éphod. Pour un prophète des dieux, Samuel, pour un roi, David, et pour un sacrificateur, Aaron. Donc les trois fonctions nous mènent dans cette présence des dieux. Donc l'éphod, il représente ça. Il sera artistement travaillé. On continue au verset 7, Exode 28, verset 7. On y fera deux épaulettes qui les joindront par deux extrémités, et c'est ainsi qu'il sera joint. Donc, le front et la partie de l'arrière. La ceinture sera du même travail que l'éphod est fixé sur lui. Elle sera d'or, de fil bleu, pourpre cramoisi et de fin lin retors. Donc, l'éphod avait une ceinture qui faisait partie de l'éphod lui-même. Qu'est-ce que la ceinture signifie? Voyons par exemple comment le Christ, quand il est décrit dans sa fonction de suprême sacrificateur et de roi, dans le chapitre 11 du prophète Esaïe. Voyons par exemple au chapitre 11, la description du Messie quand il sera roi et sacrificateur sur toute la terre, comme il l'est maintenant. Gardez toujours le chapitre 28 de l'Exode, reportez-vous au livre d'Ésaïe, du prophète Ésaïe, au chapitre 11 et verset 4. Il dit, « Mais s'il jugera les pauvres avec équité, » Moi, je vois, parfois, les versets, ça change un petit peu l'ordre ici dans cette version. Chapitre 11 d'Ésaïe, verset 3. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur ouï dire, mais il jugera les pauvres avec équité et il prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre avec la parole comme une verge et du souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant. Voici, c'est le verset 5 dans cette version de Monsieur Louis Segond. La justice sera la ceinture de ses flancs. La justice, souvenez-vous que le Christ est le suprême sacrificateur et qu'ici, dans le chapitre 28 de l'Exode, on est en train de décrire les vêtements et voici comment il y a un accomplissement. Qu'est-ce que ça veut dire? L'Exode, les fautes, je viens de vous expliquer, représentent la justice, la droiture, l'obéissance aux commandements des dieux qui sont écrits dans le cœur, qui est couvert par l'éphod. Mais il y a une ceinture qui fait partir l'éphod. Et voici, verset 5 d'Ésaïe, le suprême sacrificateur, l'accomplissement de cette figure que nous voyons ici, c'est la justice sera la ceinture de ses flancs. Et la fidélité, la ceinture de ses reins. Nous allons voir qu'il y a deux ceintures. L'une, c'est la justice, c'est la droiture, ça fait partie de l'éphod. Ça représente donc la fidélité à la loi de Dieu, bien sûr, l'accomplissement parfait, la justice, donc l'éphod. Il fallait l'assujettir fortement avec cette ceinture qui représentait la justice, chers sœurs et frères, l'obéissance au commandement de Dieu. Donc voilà ce que nous devons faire. Et l'apôtre Paul aussi, si vous voulez regarder le parallèle avec une armure ancienne dont il nous fait le parallèle à chapitre 6 des Éphésiens. Je répète, tenez donc ferme au verset 14, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Voilà. La vérité, c'est la parole de Dieu. Revêtez la cuirasse de la justice. Ça, c'est le parallèle de l'éphod. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les trains enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit. Nous allons voir qu'il y a encore des parallèles que nous allons apprendre ici au fur et à mesure que nous étudions ces Écritures. Revenons donc au chapitre 28 de l'Exode. Donc, il décrit maintenant, la ceinture sera du même travail, au verset 8, que l'éphod est fixé sur lui. Elle sera d'or, de fil bleu, pourpre, cramoisi, et de fin lin, retors. Tu prendras deux pierres d'onyx et tu y graveras les noms de fils d'Israël, 6 de leur nom sur une pierre et 6 autres sur la seconde pierre d'après l'ordre des naissances. Tu graveras sur les deux pierres les noms des fils d'Israël comme on grave les pierres et les cachets. Tu les entoureras de montures d'or, tu mettras les deux pierres sur les épaulettes de l'éphod en souvenir des fils d'Israël, c'est comme souvenir qu'Aaron portera leur nom devant l'Éternel sur ses deux épaules. Voilà, le Christ, il a ses yeux fixés, il nous porte comme un homme porte son enfant, comme il l'a décrit quand il a transporté, il a guidé les enfants d'Israël dans le désert, quand ils sont sortis d'Égypte, comme un homme porte son fils sur ses épaules, chers sœurs et frères. C'est comme il a porté nos péchés, il nous a rachetés et nous sommes très importants, nous sommes les premiers fruits de son plan. Lui, il est tout premier fruit et nous suivons. Il nous porte sur ses épaules. Ça nous donne la consolation profonde que le Christ a toujours ses yeux sur nous, chers sœurs et frères. Que nous soyons fidèles à lui comme il est fidèle à nous. Et il nous porte devant la présence du Père. Il nous a portés comme il a porté sa croix. Il nous a rachetés. Donc ça donne la consolation. Il est venu donner un accomplissement à toutes ces paroles, chers sœurs et frères. Il nous porte sur lui avec l'amour de quelqu'un qui a racheté son épouse. Donc, on est devant la présence des dieux. Il nous porte comme il portait les noms des enfants d'Israël d'après leur naissance. C'est intéressant que Dieu a appelé des gens à travailler dans sa vigne et pendant 12 heures du jour, vous souvenez-vous de cette parabole qui me vient maintenant à l'esprit. C'est comme ça tout au long, d'après leur naissance ou d'après leur engendrement, Dieu est en train d'appeler de nouveaux fruits, de premiers fruits qui sont les enfants d'Israël, l'Israël des dieux qui est devant la présence des dieux, comme l'épin de la présence qui a de l'encens mais qui n'a pas de levain. Ça représentait l'Israël des dieux. Vous et moi, chers sœurs et frères, le Christ et le Père ont toujours leurs yeux sur nous comme cet pain de la présence ineffable des dieux dans nos vies. Et c'est ça, est représenté, nous allons le voir maintenant, par ces pierres précieuses sur la poitrine d'Aaron. Le Christ nous porte constamment devant la présence des dieux. Chers sœurs et frères, nous pouvons avoir confiance qu'il ne nous laissera, ne nous abandonnera jamais. Donc voilà, c'est la consolation pour nous. Mais nous allons voir aussi d'autres parallèles qui ont à voir avec notre conduite envers lui. C'est comme souvenir qu'Aaron portera leur nom devant l'Éternel sur les deux épaules. Donc, nous sommes toujours dans son esprit. Ses yeux sont toujours fixés sur nous, comme ils sont fixés sur l'épin de la présence qui vient se présenter chaque semaine devant lui avec de l'encens pour le louer avec nos chansons, pour venir écouter sa parole. Ça, c'est l'encens. Et puis, sans levain, si nous voulons, si nous allons être fidèles au pacte que nous avons fait avec lui. Sur le des épaules, tu feras des montures d'or, de chaînettes d'or pur, que tu tresseras en forme de cordon, et tu fixeras aux montures les chaînettes ainsi tressées. Donc on est bien attaché au Christ, et il est très attaché à nous, chères sœurs et frères. Lisons maintenant le verset 15. Tu feras le pectoral du jugement, artistement travaillé. Donc le pectoral du jugement, on peut le traduire aussi le pectoral des décisions. On le mettait sur l'éphod et nous allons voir, il était attaché avec des chaînettes qui montaient jusqu'aux épaules de l'éphod et qui descendaient jusqu'à la ceinture de l'éphod. Il fallait que ce pectoral soit attaché à l'éphod. Nous allons voir pourquoi, chers sœurs et frères, c'est une profonde leçon spirituelle pour nous, écrite dans des symboles physiques qui représentent une dimension beaucoup plus profonde de notre appel et de notre rapport avec Dieu. Nous allons voir que l'éphod représente la sainteté. Et maintenant, nous allons voir que le pectoral représente les décisions, c'est-à-dire toutes les décisions que nous prenons. Et toutes les décisions que Dieu prend sont fondées sur sa loi qui est représentée par la justice de l'éphod. Donc il faut marcher toujours et demander cette sagesse que Salomon a demandé à Dieu. Donne-moi un cœur sage pour discerner entre le bien et le mal. Et voici le pectoral du jugement et pour prendre des décisions qui sont attachées à l'éphod qui représente les lois des dieux, la droiture. Voilà, chers sœurs et frères. Donc, nous devons marcher jour après jour dans cette loi, dans ce chemin étroit, et nous devons jour après jour prendre des décisions en demandant à Dieu la sagesse pour savoir discerner entre le mal et le bien. Il y a des leçons profondes dans ces habits sacerdotales. Je ne prétends pas de tout expliquer, mais de vous montrer qu'il y a des leçons pour nous, pour notre conduite, et qui sont sept éléments, comme ces sept les jours des pains sans levain, qui nous guident vers la perfection. On continue alors. Il sera carré, il dit, tu les feras du même travail que l'éphod, tu les feras d'or, de fil bleu, je lis le verset 15, pourpre cramoisi et de fin lin retors. Il sera carré et double. Pourquoi double? Comme ça, parce qu'au-dedans, on mettait l'urim et les thummim. Chers sœurs et frères, on va le voir tout de suite après. Qu'est-ce que ça veut dire? C'était deux pierres précieuses qui étaient à l'intérieur de l'éphod et qui allaient donner la décision de la part des dieux. Nous allons voir un petit peu là-dessus aussi. Il sera carré et double. Sa longueur sera d'un empan et sa largeur d'un empan. tu y en chasseras une garniture de pierres, 4 rangées de pierres. Première rangée, une sardoine, une topaze, une émeraude. Seconde rangée, une escarboucle, un saphir, un diamant. Troisième rangée, une opale, une agate, une améthyste. Quatrième rangée, une chrysolite, un onyx, un jaspe. Ces pierres seront enchâssées dans leur monture d'or. Il y en aura 12 d'après les noms des fils d'Israël. Elles seront gravées comme décachées, chacune avec les noms de l'une des 12 tribus. Tu feras sur le pectoral des chaînettes d'or pur tressées en forme de cordon. Donc voilà, il nous porte sur ses épaules, il nous porte dans son cœur, chers frères, comme de pierres précieuses. Pour lui, on a été rachetés par son sang. C'est très important aux yeux de Dieu. Et je regrette que la version de M. Segond ne le traduit pas exactement comme la version en anglais. Vous pouvez le vérifier dans les livres de Malachie. Dieu nous appelle son trésor. Nous, on est le trésor de Dieu. Donc, on a vraiment des leçons merveilleuses qui sont consignés là pour nous. Regardez le chapitre 4 de Malachie. Je sais pas pourquoi il a omis cette partie tellement belle qui est traduite clairement dans la version anglaise du King James. Et c'est au verset... Je vous dis tout de suite, c'est très beau. Vous pouvez vérifier ça dans notre version, peut-être... C'est marqué comme, je viens de vous le dire, qu'on est on est comme un trésor dans le cœur du Christ devant la présence du Père. Voici, et au chapitre 3, verset 16 de Malachie, du prophète Malachie 3, verset 16. Il dit, alors ceux qui craignent l'Éternel se parleront l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Donc là, il manque une partie. Ils seront pour moi un trésor spécial. Je crois que c'est représenté dans ce pectoral qui est orné avec ces 12 pierres qui représentent chacun des noms des 12 tribus d'Israël. Souvenez-vous, nous, on est l'Israël de Dieu. Et c'est d'après chaque tribu que l'Éternel en choisit 12 000 premiers fruits pour chaque tribu. Ça, c'est un sujet dont on parlera peut-être dans une autre occasion, mes chères sœurs et frères. Mais ça, c'est absolument merveilleux. Donc, il nous porte sur ses épaules comme il a porté nos péchés et qu'il nous présente innocents devant Dieu. Et il nous porte dans nos épreuves et il nous porte dans sa poitrine quand il fait au-dedans du pectoral. Mais on est présent devant la présence des dieux par l'intermédiaire du Christ comme des pierres précieuses qu'il est en train de préparer pour sa gloire, comme un trésor, le trésor de son plan magnifique qu'il a conçu avant le commencement des temps et qui commence à s'accomplir, qui s'est déjà accompli la première partie avec le Christ et sa victoire. Et Dieu attend que nous soyons des vainqueurs jour après jour, en vivant d'après la justice représentée dans l'éphode, en prenant des décisions d'après la sagesse représentée dans les pectorales et dans l'oumim et les toumim. On va continuer alors, chers sœurs et frères. Et puis il dit, tu feras sur le pectoral des chaînettes d'or pur tressées en forme de cordons. Ici, il va décrire comment ce pectoral, avec ses pierres, mais qui au-dedans, il est double parce que c'est comme une petite bourse où se trouvent l'ourim et les toumim. Nous allons voir ça tout de suite après. Tu feras sur le pectoral des chaînettes d'or pur tressées en forme de cordon. Verset 23. Tu feras sur le pectoral 2 anneaux d'or et tu mettras ces 2 anneaux aux 2 extrémités du pectoral. C'est-à-dire pour qu'ils ne s'ouvrent pas. Donc, avec 2 anneaux d'or, c'était comme une petite bourse, comme je vous dis. Tu passeras les deux cordons d'or dans les deux anneaux aux deux extrémités du pectoral et tu arrêteras par devant le bout des deux cordons aux deux montures placées sur les épaulettes de l'éphod. Donc il doit être attaché à l'éphod, comme je vous l'ai dit. Toute décision doit être fondée sur la justice que l'éphod représente. Ce n'est autre chose. Ce n'est autre chose que les commandements des dieux qui doivent être écrits dans nos cœurs et dans notre esprit. Donc la sagesse combinée avec cette loi écrite, même dans l'esprit et dans le cœur, pour prendre des décisions sages jour après jour, pour marcher dans la loi des dieux et nous préparer à régir le monde. Tu feras encore deux anneaux d'or que tu mettras aux deux extrémités du pectoral, sur le bord intérieur appliqué contre l'éphod. Et tu feras deux autres anneaux d'or que tu mettras au bas de deux épaulettes de l'éphod, sur le devant, près de la jointure, au-dessus de la ceinture de l'éphod. Comme je vous l'ai dit, ce pectoral est attaché et Dieu donne tous les détails. Tous les détails, le Christ a dit clairement, rien ne va être aboli. Il y a une signification. Il faut que cette pectorale soit attachée à l'éphod, même dans la partie haute et avec la ceinture qui représente la même droiture ou la justice ou la rectitude qui est représentée avec l'éphod. Au-dessus de la ceinture de l'éphod, on attachera le pectoral par ses anneaux aux anneaux de l'éphod avec un cordon bleu afin que le pectoral soit au-dessus de la ceinture de l'éphod et qu'il ne puisse pas se séparer de l'éphod. Voilà. Qu'il ne puisse pas se séparer de l'éphod. Nous serons des prêtres ou des sacrificateurs et des rois. Et toute décision que nous prenons maintenant quand nous nous préparons pour ces rôles éternels qui commencent avec le royaume du Christ établi sur la terre, nous devons apprendre jour après jour à vivre dans le chemin étroit en suivant la loi écrite en nos cœurs, l'éphod, et puis en prenant des décisions, toujours attachées à ces lois, avec la sagesse, comment l'appliquer. La loi, et puis les jugements sont les décisions qu'on prend d'après la loi. Il y a les commandements des dieux, et il y a les jugements des dieux. Voilà les deux représentés pour que nous vivions jour après jour dans la sainteté, chers sœurs et frères. Lorsqu'Aaron entrera dans les sanctuaires, il portera sur son cœur les noms des fils d'Israël gravés sur le pectoral du jugement. Il les porte sur ses épaules, il les porte sur sa poitrine, chers sœurs et frères. On est très cher pour Dieu. On doit donc correspondre avec l'obéissance. Qu'est-ce que le Christ a dit? Si vous m'aimez, obéissez mes commandements. Et l'apôtre Jean, qu'est-ce qu'il nous dit au 5e chapitre de sa première épître? Voici qu'est-ce que l'amour, c'est d'obéir les commandements de Dieu. C'est comme ça que nous correspondons à son amour, pour conserver toujours le souvenir devant l'Éternel. Voilà, dans sa poitrine, sur ses épaules. Tu joindras au pectoral du jugement, c'est-à-dire des décisions, l'ourim et le tumim. Qu'est-ce que ça veut dire? L'ourim veut dire des lumières. Et le tumim veut dire, attendez voir, faut que je me rappelle, des lumières et des, c'est-à-dire, il éclaircit la situation. C'est la réponse des dieux. Nous allons voir dans un moment que dans la nouvelle alliance, dans le nouveau pacte, c'est par l'Esprit des dieux qu'on fait travailler l'Urim et le Tumim. L'Urim veut dire des lumières et Tumim veut dire des révélations. Donc, quand l'Urim, souvent, comme je vous dis, ils ne sont pas décrits, Dieu ne dit pas à Aaron ou à Moïse de les construire, ou de les faire, ou de les tailler. Donc, on conclut que ce sont deux pierre précieuse. L'Urim, quand il avait une question entre quelque chose, si était mauvaise ou elle était bonne, si c'était la vérité ou c'était un mensonge, si l'Urim sortait, c'était le sort qu'on tirait, n'est-ce pas? Quand l'Urim sortait, c'était des lumières. Ça veut dire, ça révélait la réalité là où il avait des ténèbres. Donc, si c'était un mensonge, voici les lumières. Si c'était un crime, il était éclairé. Comme Dieu dit, ceux qui font le mal, il ne veut pas venir à la lumière pour que ses œuvres ne soient pas jugées. Voilà le jugement des dieux. Le Christ, il faisait allusion, peut-être, à cette façon de juger qu'il avait inspirée dans sa loi. Donc, l'urim veut dire lumière. Ça veut dire, il jette de la lumière sur une question, sur un fait, sur une action, ou sur une décision qu'il faut prendre. Si elle est mauvaise, elle est révélée par la lumière de la loi des dieux et de la sagesse de savoir appliquer cette loi. Et puis, le tumim veut dire révélation. Ça veut dire, si la personne est innocente, c'est révélé par le tumim. Elle est innocente. Ou si c'est la vérité, voilà, elle est révélée comme la vérité. Donc, lumière et révélation. C'est comme ça que le jugement des dieux était appliqué dans l'Ancien Testament, ou disons, dans l'Ancienne Alliance, parce que ce n'était pas un testament, en parlant strictement. Et ils seront sur le cœur d'Aaron. Voilà ce que Salomon avait demandé, un cœur sage, savant, pour discerner entre le bien et le mal, entre les ténèbres et la vérité, Urim, lumière, Tumim, révélation. Voilà, entre ces deux choses que nous devons demander jour après jour, si nous pouvons, nous voulons être, avoir du succès dans notre vie quotidienne, comme des disciples du Christ qui ont ces choses, ces enseignements, qu'on les prend à cœur, de tout son cœur. Donc, l'Urim et le Tumim, ils seront sur le cœur d'Aaron lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Vous voyez, la dernière décision qui a été prise d'après le sort, dont on parle, reportez-vous au livre des Proverbes, chapitre 16, chers sœurs et frères, Proverbes, chapitre 16, verset 33, c'est le dernier verset du chapitre 16 des Proverbes. On jette le sort dans le pan, donc l'urim et le tumim, de la robe du prêtre. Mais toute décision vient de l'Éternel. Comme il n'avait pas le Saint-Esprit, il fallait consulter l'Éternel. Et nous, quand on a le Saint-Esprit des dieux, si on a vraiment fait le travail de le garder toujours lumineux par la discipline quotidienne, de le nourrir avec la parole des dieux et de la prière en demandant la sagesse pour pouvoir se conduire jour après jour dans notre vie, dans un monde ténébreux. Donc, on n'a plus besoin du tumim et de l'urim et du tumim physique. On a besoin de, comme dit l'apôtre Paul à Timothée au chapitre 2e épître à Timothée, chapitre 1, verset 6. Disons ça. Qu'est-ce qui remplace le tumim et le tumim? Quel est l'accomplissement dans le nouveau pacte? Regardons-le ici au chapitre 1 de la 2e épître à Timothée, chapitre 1, verset 6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don des dieux que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Voilà l'esprit des dieux. C'est la flamme brûlante au-dedans de nous qui nous donne la lumière au temple et qui nous illumine pour savoir comment appliquer la loi des dieux dans notre vie tout d'abord et puis dans la vie de ceux qui sont à nos charges comme nos enfants ou l'épouse pour guider le destin de notre petit royaume comme le Christ, avec amour, avec sagesse. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don des dieux que tu as reçu par l'imposition de mes mains, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Voilà, la sagesse, c'est savoir appliquer la loi des dieux, savoir prendre des décisions. Voilà, chers sœurs et frères, l'accomplissement de tout ce qui est là. Il y avait raison. Donc on continue au chapitre 28 de l'Exode. Tu joindras au pectoral du jugement l'Urim et le Tumim, et ils seront sur le cœur d'Aaron lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Ainsi Aaron portera constamment sur son cœur le jugement des enfants d'Israël lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Souvenez-vous que nous, on est en train d'être jugés maintenant. On est les seuls qu'on est jugés maintenant. Le monde n'est pas encore jugé. Chers sœurs et frères, le jugement commence par la maison des dieux, par l'église du Dieu vivant. Donc, il faut craindre et il faut nous juger nous-mêmes d'abord pour ne pas être jugés. On continue au verset 31. Exode 28, verset 31. Tu feras la robe de l'éphod entièrement d'étoffe bleue. Il y aura au milieu une ouverture pour la tête. Et cette ouverture aura tout autour un bord tissé comme l'ouverture d'une cotte de maille, afin que la robe ne se déchire pas. Tu mettras autour de la bordure, en bas, de grenades de couleur bleue, pourpre et cramoisie, entremêlées et des clochettes d'or. Une clochette d'or et une grenade, une clochette d'or et une grenade sur tout le tour de la bordure de la robe. Aaron s'en revêtira pour faire le service quand il entrera dans les sanctuaires devant l'Éternel et quand il en sortira, on entendra les sons des clochettes et il ne mourra point. Donc Dieu voulait qu'il y ait cette annonce de qu'il s'approchait du sanctuaire. Il ne pouvait le faire d'ailleurs. Il pouvait entrer dans le lieu saint où était le chandelier, où était la table des pains de la présence et où était l'autel de l'encens ou des parfums. Mais le lieu très saint, le saint des saints, une seule fois par an. Mais nous avons accès à ces lieux saints à n'importe quel moment, chers sœurs et frères, si on se présente dignement, couvert par le sang du Christ. Alors voici, verset 36. Donc, qu'est-ce que ça représente, la robe de l'éphod? La robe de l'éphod représente aussi des fruits du Saint-Esprit. Par exemple, il est traduit dans le... Nous pouvons regarder un accomplissement, nous allons voir dans le chapitre... 61 et verset 9 d'Ésaïe, du prophète Ésaïe. Voyons ici un accomplissement de ce que ça représente. Chapitre 61 et verset 9 d'Ésaïe. 61 verset 9. Il est peut-être traduit autrement, mais il représente cette robe de l'éphod. Donc, il y a toujours une signification spirituelle. Ésaïe, chapitre 61, et verset 9. Verset 8. Excusez-moi. Au verset 7, nous allons voir des accomplissements, ce que cela veut dire. Au lieu de votre propre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Nous allons voir que cette robe bleue veut dire la joie, et puis de marcher dans la présence des dieux. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays, et leur joie sera éternelle. Car moi, l'Éternel, j'aime la justice, j'ai hais la rapine avec l'iniquité. Je leur donnerai fidèlement leur récompense. Je traiterai avec eux une alliance éternelle que nous comprenons maintenant, dont nous comprenons l'accomplissement maintenant. Leur race sera connue parmi les nations et leur postérité parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements de salut. Voilà, ces vêtements de sainteté sont les vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. Ce manteau est la robe de l'éphod. Délivrance, pourquoi? Quand on obéit Dieu, on est délivré du péché. Le premier commandement, je suis l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage, dont Dieu nous a libérés, chers sœurs et frères. Quand on marche d'après la justice, donc il y a la robe représente cette libération du péché, cette joie d'être libre devant la présence des dieux et d'être soumis, bien sûr, à ces lois qui nous donnent la liberté du péché. Il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Et nous avons parlé des joyaux tout à l'heure. Voici, chers sœurs et frères, un des accomplissements qui sont cachés ici, ou disons, dont la signification se trouve représentée dans ses vêtements sacrés. Continuons donc, il dit au verset 36, « Tu feras une lame d'or pur, et tu y graveras comme on grave un cachet, sainteté à l'Éternel. » Vous voyez, ça a à voir avec les pains sans levain. « Sainteté à l'Éternel, c'était une lame d'or pur, et tu y graveras comme on grave un cachet, sainteté à l'Éternel. Tu l'attacheras avec un cordon bleu sur la tiare, sur le devant de la tiare. » Souvenez-vous que la tiare est le parallèle du casque du salut dont on a parlé dans l'épître aux Éphésiens. Ici, c'est la tiare du sacrificateur, et il fallait donc qu'il soit attaché au devant de la tiare cette lame d'or pur où c'est écrit « Sainteté à l'Éternel ». Elle sera sur les fronts d'Aaron, et Aaron sera chargé des iniquités commises par les enfants d'Israël. C'est-à-dire, s'il était fidèle, comme le Christ a été fidèle, on est accepté devant Dieu par le Christ, il a porté sur nous, sur lui, tous nos péchés. Donc, mais qu'est-ce que ça veut dire, sainteté à l'Éternel, devant son front, chers sœurs et frères? Comme je l'avais dit dans un autre serment, il faut veiller sur nos pensées. Il faut veiller sur nos pensées, chers sœurs et frères. C'est là où le péché commence, c'est sur les fronts. Je vais vous faire une étude, peut-être dans le futur, sur le symbolisme de la lèpre. Voilà encore un autre sujet. Dieu a inspiré 116 versets sur la lèpre. Il y a un parallèle spirituel étonnant, chers sœurs et frères, avec le péché. Où est-ce que, par exemple, quand le roi Osie, nous pouvons voir ici au deuxième livre des Chroniques, rapportez-vous là, s'il vous plaît, chers sœurs et frères, deuxième livre des Chroniques, au chapitre 16. On va voir si on trouve cette histoire-là. Je crois que c'est au chapitre 16. Deuxième livre des Chroniques. Non, je ne le trouve pas. Mais souvenez-vous, et le roi Osie, je vais trouver ça dans un moment, mais de toute façon, vous vous souvenez que à cause de sa prospérité, ça lui a monté à la tête, chers sœurs et frères, il s'est présenté devant l'Éternel pour offrir l'encens. Il n'était pas prêtre, il n'était pas sacrificateur. Ce n'est que dans la Nouvelle Alliance où il a les deux rôles qui sont unis par le Christ, qui est le roi de Salem et le sacrificateur du Dieu plus haut. Donc, il n'était pas parti de la Nouvelle Alliance ou du Nouveau Pacte, et il a brisé les limites. Il est allé au-delà de ce qui lui était accordé. Il a subi les conséquences, et le roi Osie. Je crois que je l'ai marqué ici quelque part, chers sœurs et frères, peut-être au chapitre 26. Oui, c'est au chapitre 26 du deuxième livre des Chroniques. Je vous remercie votre patience ici. Au chapitre 26, vous allez voir ce qui est arrivé et où est-ce que le péché a commencé. Au chapitre 26, deuxième livre des Chroniques, voici quelque chose de très intéressant. Comme je vous ai dit, peut-être dans le futur, on va étudier la lèpre et le rapport que cette maladie a avec le péché. Chapitre 2e épître des Chroniques, 26e chapitre 2 du 2e livre des Chroniques, verset 16. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Voilà l'orgueil. C'est le premier des péchés parce qu'on se met à la place des dieux. C'était le premier péché de Satan. Il s'est mis à la place des dieux. Son ego, notre vanité devient notre Dieu. Et puis il dit, il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, hommes courageux, qui s'opposèrent au roi Ozias et lui dirent, « Tu n'as pas le droit, Ozias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs fils d'Aaron qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire car tu commets un péché et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. » La colère s'empara d'Ozias qui tenait un encensoir à la main et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel près de l'autel de parfum. Le souverain sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portèrent leur regard sur lui et voici, il avait la lèpre au front. C'est là où le péché commence. C'est ce qu'on conçoit dans l'esprit, chers sœurs et frères. Et nous, on est ici en train de célébrer une fête qui nous enseigne à éviter le péché, à mener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est l'un de mes versets favoris dans la Bible. C'est 2 Corinthiens, chapitre 10 et verset 5. Ils le mirent précipitamment dehors et lui-même se hâta de sortir parce que l'Éternel l'avait frappé. Le roi Ozias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort et il demeura dans une maison écartée comme lépreux. Qu'est-ce que le levain? C'est le symbole de la vanité et de l'orgueil, chers sœurs et frères, de ne pas vouloir accepter la correction. Voilà la façon la plus simple de mesurer si nous avons de l'orgueil, si nous avons de la vanité. Comment réagissons-nous quand on nous corrige? Voilà la clé. Si quelqu'un s'humilie devant Dieu quand il reçoit la correction et il aime celui qui lui montre son péché, voilà, il est sage, il est dans le bon chemin, il va corriger ses erreurs. Mais celui qui ne l'accepte pas et qui s'irrite, qui a de l'orgueil, qui ne croit pas, qui s'est trompé parce qu'il est aveugle devant lui-même, parce que l'orgueil, ce n'est qu'une séduction, c'est quelque chose qui nous trompe, on ne se voit pas comme on est. Et le roi, il se croyait trop, ça lui montait à la tête sa prospérité, et voilà, c'était la cause de sa perte et de sa mort comme lépreux, car il fut exclu de la maison de l'Éternel. Et Jotham, son fils, était à la tête de la maison du roi et jugeait le peuple du pays. Voilà, chers frères, pourquoi cette diadème d'or? Sainteté à l'Éternel, si nous sommes entrés dans une alliance avec le Christ, chers frères, nous devons porter toute pensée captive, mener toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Voilà une signification absolument profonde et puissante pour nous. Je vous prie de vous reporter, s'il vous plaît, à la 2e épître aux Corinthiens et relisons cette écriture. Est absolument cruciale si nous allons accomplir le but de ces fêtes que nous célébrons maintenant, des pains sans levain, et puis de pouvoir être des vainqueurs. Ça commence juste dans l'esprit, dans les fronts, dans notre front, c'est là où on conçoit le péché et ça envahit, si vous voulez, ça pollue tout le corps entier, mais c'est là où ça commence. Chapitre 10 et verset 5, 2e épître aux Corinthiens, chapitre 10 et verset 5, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance des dieux. C'est que le roi Ozias n'a pas fait. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Voilà. C'est pourquoi la loi est écrite dans notre esprit et dans notre cœur, chers sœurs et frères. L'éphod est le symbole de cette droiture dans laquelle on doit marcher et cette lame d'or pure où s'est gravée sainteté à l'Éternel sur le front du suprême sacrificateur. C'est une leçon profonde pour nous de mener toute pensée captive à l'obéissance du Christ. C'est ça la cause du bonheur, chers sœurs et frères. Quand toutes nos pensées sont en harmonie avec la loi de Dieu et quand on sait reconnaître nos erreurs, on commence à éprouver, à expérimenter le bonheur dans notre esprit et dans tout notre être. On est rempli de la joie de Dieu, comme je vous l'ai dit, qui représentait le manteau ou la robe de l'éphod. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment des leçons ici absolument magnifiques. Revenons au chapitre 28 de l'Exode. On parlait donc de cette lame d'or pur. Sainteté à l'Éternel, obéissance, mener chaque pensée captive à l'obéissance du Christ, apprendre la maîtrise de soi, la maîtrise de la pensée, la maîtrise de nos émotions. Et voilà que le Christ pourra donc se manifester par notre intermédiaire, parce qu'on deviendra déjà des pains sans levain, où la présence des dieux pourra se manifester par notre intermédiaire et être une bénédiction à tous ceux qui nous entourent. Chapitre 28, verset 39 de l'Exode. Tu feras la tunique de fin lin. Tu feras une tiare de fin lin et tu feras une ceinture brodée. Voilà une autre ceinture. On a déjà vu qu'il y avait une ceinture qui était attachée à l'éphod. La justice et le Christ, il porte deux ceintures, comme je vous l'ai montré dans le chapitre 11 de Ésaïe. Chapitre 11. Le voilà. Il dit au chapitre 11, verset 4, lisons le Christ. « Mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la terre. » Un jugement, voilà ce que représentait le pectoral. « Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs. » Voilà, la justice, c'était la ceinture de l'éphod que représentait la justice et la fidélité, la ceinture de ses reins. Donc, il y en avait deux, celle de l'éphod, et on voit ici qu'il y en a deux, celle de l'éphod et celle de la robe. Répétons, chapitre 28, verset 39, « Tu feras la tunique de fin lin, tu feras une tiare de fin lin et tu feras une ceinture brodée. » Une autre ceinture, la fidélité pour les fils d'Aaron, c'est-à-dire que nous devons la porter aussi. Et voyons par exemple, en revenant à l'épître des Éphésiens, chapitre 6, Éphésiens chapitre 6, vous voyez, il est écrit, verset 14, « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. » Donc la vérité c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Donc la ceinture dans les reins, ce qui nous donne la maîtrise de nous-mêmes, de toutes pensées, de toutes émotions, parce que c'est dans le bas-ventre, chers sœurs et frères, qui se produisent les passions qui veulent nous mener vers l'adultère, vers la fornication, vers l'excès de manger, chers sœurs et frères. Donc, c'est la vérité de Dieu qui doit illuminer nos flancs et notre ventre, nos reins. Tenez donc, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. On a déjà vu ça. Donc, on continue ici au chapitre 28 de l'Exode en essayant de trouver des leçons profondes dans ces éléments de vêtements sacrés, des sacrificateurs. Tu feras la tunique de fin lin. Qu'est-ce que la tunique? Qu'est-ce que ça veut dire? Le fin lin. Mais vous savez, chers sœurs et frères, revenons ici au chapitre 19 de l'Apocalypse et nous voyons l'explication de la parole de Dieu. Chapitre 19, au chapitre 19, verset 7 de l'Apocalypse. 19 et verset 7, qu'est-ce que nous lisons? Voilà l'accomplissement pour nous autres, chers sœurs et frères. Réjouissons-nous, chapitre 19, verset 7 de l'Apocalypse. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur, car les fins lins, ce sont les œuvres justes des saints. Voilà, le fin lin, ce sont, elle est donc, il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. C'est l'habit. C'est l'habitude. Voilà. Comme quelqu'un l'a dit, il faut veiller sur nos pensées. Comme nous venons de le voir, c'est l'origine, c'est là le péché. Il s'origine dans la pensée, où il faut mener captive chaque pensée à l'obéissance du Christ. C'est pourquoi la loi est écrite là, sur notre front. pour pouvoir garder et marcher dans ce chemin. Donc, il dit, gardez, c'est quelqu'un qui l'a dit, veillez sur vos pensées, car vos pensées deviennent vos paroles. Donc, Dieu regarde les pensées. Et c'est là où le péché commence. Si quelqu'un la convoitise pour une femme, c'est dans sa pensée que ça commence. Et ça devient des émotions. Ça met du feu mauvais en nous autres, un feu qui ne vient pas des dieux, comme celui que les enfants d'Aaron ont apporté dans la présence des dieux, qui allume des passions qui vont contre la loi des dieux. Il y a des passions qui sont d'après la loi des dieux, dans l'amour entre l'épouse, son époux et son épouse, bien sûr, mais tout ce qui est une déviation de cette loi n'est pas bon. Donc, il faut avoir cette maîtrise, chers sœurs et frères, il faut maîtriser nos pensées. Ceux qui commettent la fornication vont être dans le lac de feu parce qu'ils ne sont pas fidèles au Christ maintenant. Si on n'est pas fidèle à ce qui est petit, on ne va pas être fidèle pour l'éternité. On est en train de juger maintenant, d'après nos pensées. Et puis, nos pensées deviennent nos paroles et on va être jugé d'après nos paroles parce qu'elles ont été générées dans notre pensée. Donc, il faut veiller sur nos pensées parce qu'elles deviennent nos paroles. Et vous le savez bien, dans le chapitre 12 de Matthieu, c'est par nos paroles qu'on va être jugé. Il faut rendre compte, un compte rendu de tout ce qu'on a parlé, nous autres. Donc, il faut garder. Voilà le levain. Comment il faut l'éliminer? En éliminant de la pensée. Et puis en l'éliminant, bien sûr, si on élimine la cause de nos paroles. Regardons au chapitre 12 de Matthieu, verset 34, chers sœurs et frères, pour un moment. Et vous voyez comment ces textes de la loi que le Christ n'est pas venu abolir sont pleins de significations pour nous. Chapitre 12 de Matthieu. Et puis, il dit, chapitre 12 et verset 34 de Matthieu. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Voilà. Veillons sur nos pensées, parce qu'elles deviennent nos paroles. Les pensées du cœur, les pensées de l'esprit, elles deviennent nos paroles. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon, est-ce que nous sommes négatifs? Est-ce que nous sommes toujours en train de critiquer? Est-ce que nous sommes toujours en train d'abaisser les autres? L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes de paroles vaines qu'ils auront proférées. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Donc, veillons sur nos pensées. Et c'est le temps de réfléchir à cette époque, très spécialement. Elles deviennent nos paroles. Et nous savons que le péché commence dans la pensée, elle se manifeste dans nos paroles. On sera jugé d'après nos paroles. Veillons nos paroles parce qu'elles deviennent nos actions. Donc, si on le voit du point de vue positif, si nos pensées et nos paroles et nos actions sont le reflet de cette présence de Dieu, de cette présence ineffable, de cette sainteté, donc on aura les vêtements sacrés du fin lin éclatant de pureté, chers sœurs et frères, les actions justes des saints, ça devient nos actions. Voilà, c'est toute une chaîne. On va le regarder du point de vue positif maintenant. Une fois qu'on a sorti le levain. Donc, ça devient nos paroles. Nos pensées deviennent nos paroles. Nos paroles deviennent nos actions. Et Dieu veut que ça soit le reflet de cette méditation continuelle avec cette flamme toujours allumée au-dedans de nous, de la présence des dieux et de sa parole comme une lampe qui brûle continuellement au-dedans de nous. Donc, ça se manifeste dans des actions. Et ces actions sont cette tunique blanche. Tu feras la tunique de fin lin. Tu feras une tiare. Donc, la tunique de fin lin, c'est les actions justes des saints. C'est l'épouse qui a vaincu pour être l'épouse du Christ pour l'éternité. Tu feras la tunique de fin lin. tu feras une tiare de fin lin et tu feras une ceinture brodée. Donc on a déjà parlé qu'il y a deux ceintures, celle de l'éphod et celle qui est autour de la tunique, chers sœurs et frères. Pour les fils d'Aaron, tu feras des tuniques, tu leur feras des ceintures et tu leur feras des bonnets pour marquer leur dignité. Donc, notre dignité, c'est de marcher avec les fronts en haut, parce qu'on marche dans la présence des dieux, pas avec de l'orgueil, mais avec de la gratitude et de l'humilité. Tu feras des bonnets, donc ça c'est le casque du salut, protéger les pensées. Et donc, pour continuer la séquence, donc les pensées deviennent des paroles, les paroles deviennent des actions, les actions deviennent nos coutumes. Nos actions deviennent nos coutumes, nos habitudes. C'est pourquoi la tunique, c'est un habit, ce sont des habitudes. C'est comme ça qu'on forge le caractère divin en nous, par la répétition constante de la droiture dans notre façon d'agir, pas en étant ni chaud ni froid, comme ça, mais toujours droit, toujours dans la même direction, avec du zèle profond, pour marquer leur dignité. Voilà. Et donc, ces actions deviennent des habitudes. C'est pourquoi l'habit, c'est les actions justes des saints. Voilà le parallèle. Et puis, nos habitudes deviennent notre caractère. Et notre caractère devient notre destinée. Le lac de feu ou le royaume des dieux pour l'éternité, chers sœurs et frères. Donc, il faut bien considérer ces choses-là que Dieu nous montre ici par l'intermédiaire des vêtements sacrés d'Aaron, de ses fils, comme une figure de notre conduite quotidienne. Donc, tu feras des bonnets pour marquer leur dignité, donc c'est notre façon de penser, notre façon de parler, et pour leur servir de parure. Tu en revêtiras Aaron, ton frère, et ses fils avec lui. Tu les oindras, tu les consacreras, tu les sanctifieras. C'est ici où l'huile sainte, qui avait cette odeur merveilleuse, qui ne pouvait être versée sur les hommes à l'époque, ce n'est maintenant que sur les enfants des dieux où son esprit est versé. Le verset, l'esprit aromatique, c'était ce mélange magnifique d'après l'art du parfumeur qui doit être en nous, qui doit rayonner de nous comme la présence du Christ en nous. C'est comme des parfums, chers sœurs et frères, une fois qu'on est oint avec l'Esprit Saint des dieux, chers sœurs et frères. Tu les oindras, tu les consacreras, tu les sanctifieras. Et c'est ce que nous sommes. Nous sommes oints par l'Esprit des dieux, nous sommes consacrés à son service, maintenant comme un témoignage de vie, et après, comme le gouverneur du monde. Et tu les sanctifieras, c'est-à-dire séparés du monde, et ils seront à mon service dans le sacerdoce. C'est notre fonction d'être la lumière du monde, d'être le sel de la terre. Chaque offrande devait être salée. Ça, c'est le symbole de la loyauté, c'est le symbole de la fidélité. Chers amis, il n'y a pas le sel, il y a la pollution. Donc, il y a des leçons partout. Fais-leur des caleçons de lin pour couvrir leur nudité. Donc, pas de péché caché. Les caleçons étaient à l'intérieur, ils n'étaient pas visibles. Mais il fallait couvrir notre intérieur pour qu'il y ait la pureté intérieure, extérieure. Pas d'hypocrisie devant Dieu. Il est abominable aux yeux de Dieu. Des caleçons de lin pour couvrir leur nudité. Ça veut dire leur péché. On doit donc se repentir devant Dieu pour qu'il couvre nos péchés. Ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Aaron et ses fils les porteront quand ils entreront dans la tente d'assignation ou quand ils approcheront de l'autel pour faire le service dans les sanctuaires. Ainsi, ils ne se rendront point coupables et ne mourront point. C'est une loi perpétuelle. On ne doit pas entrer avec des péchés cachés dans la présence de Dieu pour Aaron et pour ses descendants après lui. Voyons par exemple ici, chers amis, c'est la dernière partie des vêtements sacrés. Si vous voulez compter, ça en fait 7, mais on fera ici une petite application dans le livre des psaumes du roi David au chapitre 19. Voyons ce que peut représenter les caleçons d'élin qui couvrent la nudité pour qu'il n'y ait pas de péché caché en nous. Il n'y a que de l'honnêteté. Souvenez-vous, celui qui cache ses péchés ne prospère pas. Et nous sommes ici dans une époque de l'année où il faut nous examiner profondément, quoi qu'on doit le faire tout au long de l'année. Mais regardez par exemple chapitre 28, verset 13 de Proverbes. 28, verset 13 de Proverbes, chers sœurs et frères. Chapitre 28, verset 13 de Proverbes. Il est écrit, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. » C'est pourquoi il fallait des caleçons d'élan pour couvrir la nudité intérieure. Pas de péché caché devant Dieu. On serait abominable en sa présence si on devient comme des hypocrites se présenter devant Dieu. On veut cacher nos péchés, on ne veut pas les reconnaître parce qu'on est fier. « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. » C'est Proverbe 28, verset 13. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc, voyons par exemple la crainte de l'Éternel de la part de David. Ici, au chapitre 19 des Psaumes, il dit au verset 14, au verset 12, ton serviteur aussi en reçoit instruction. Par quoi ? Par la loi de Dieu, écrite en nos cœurs, en notre esprit. Et pour les observer, la récompense est grande. Qui connaît ses égarements, notre nudité? C'est Dieu qui la connaît. Et regardons ici, c'est le moment de nous examiner, chers sœurs et frères. Pardonne-moi ce que j'ignore. Donc il veut que Dieu illumine son ignorance. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux. D'ailleurs, la traduction, c'est de l'orgueil, au pluriel, du grand orgueil, c'est la traduction correcte, qui ne domine point sur moi, que l'orgueil. Pourquoi? C'est l'orgueil qui m'empêche de voir mes péchés, et qui m'empêche de prospérer, et qui m'empêche de croître dans la connaissance de Christ, et de m'en débarrasser de tout le levain. Si on n'est pas honnête, chers frères, et on demande à Dieu de nous montrer les péchés que nous ignorons, pas seulement de les pardonner, mais de nous les montrer pour que nous puissions, en nous, pas le repentir, les reconnaître et puis être pardonnés. Alors je serai intègre, innocent des grands péchés. Lisons le chapitre 32 en essayant d'illustrer là la signification des caleçons qu'il fallait que le sacrificateur porte pour que l'onidité ne se révèle pas, pour qu'il n'y ait pas de péché caché en nous. Au chapitre 32 du livre des Psaumes, nous allons lire ça, c'est vraiment une leçon profonde. David avait péché, et nous savons qu'au moins pendant 10 mois, ou pendant au-delà de 9 mois, il a caché son péché quand il avait commis l'adultère, parce que le prophète Nathan a été envoyé pour présenter à David le péché qu'il voulait caché devant sa conscience, l'enfant, fruit du péché, était déjà né. Donc, lisons ici, une leçon pour nous, nous ne pouvons pas nous présenter devant Dieu avec une nudité intérieure, sans les caleçons nécessaires qui couvrent notre nudité et dont il est nécessaire confesser, reconnaître le péché d'ignorance devant Dieu. Chapitre 32 de Psaume. De David, cantique, heureux celui à qui la transgression est remise. Mais voici la condition, faut pas la cacher. À qui le péché est pardonné, heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, de nudité, dans d'autres mots, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. On ne se trompe pas nous-mêmes, on ne sait pas de cacher nos iniquités, point de fraude, tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Donc il ne voulait pas confesser, il voulait cacher son péché. Le voilà décrit, tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Finalement, Dieu, il a augmenté la pression pour qu'il confesse, pour qu'il ne meure pas dans le péché, pour qu'il ne perde pas sa récompense. Et Dieu, il fait ça avec nous. C'est pourquoi il ramène cette fête chaque année, chers sœurs et frères. Je t'ai fait connaître mon péché, mais il s'était tu pendant pas mal de temps. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Alors, à ce moment-là, le proverbe qui dit, celui qui cache ses péchés ne prospère pas, mais celui qui les confesse et qui s'en écarte aura la miséricorde de Dieu. Et tu as effacé la peine de mon péché. Mais quand il l'a reconnu, quand il l'a confessé, quand il n'a pas essayé de le cacher, voilà. Qu'ainsi tout homme pieux t'ait pris au temps convenable. Voilà, chers sœurs et frères, de petites leçons ou des grandes leçons que Dieu a pour nous dans sa loi. Que l'Éternel nous aide à prendre toujours plus profondément, avec une dédication, avec une consécration totale à l'appel que nous avons reçu, et de prendre ces paroles sérieusement, avec la passion, pour le désir d'avoir cette justice, cette liberté, cette pureté, et avoir un rapport chaque fois plus profond avec notre Dieu. À la prochaine, chers sœurs et frères.